Trois fois cette semaine, j'avais presque le même rêve. Je rêve rarement de ces choses-là, mais trois fois, j'ai rêvé de l'église et chaque fois, l'église était pleine. Là, c'était vraiment plein. Plein, on ne pourrait presque pas bouger, tellement il y avait des mondes partout, tout le temps. Alors, il y a des espoirs. Alors, et aller plus loin dans nos réflexions. Ah, on a commencé, on a déjà trois, voilà. On a trois enseignements sur la prière. J'ai simplement vite fait un truc, c'est pas très... mais on voit au moins la prière. On a parlé du pourquoi. Hein, on a vu sept parce que. On a parlé du comment. Hein, ça, c'était plus les différentes formes de prière qu'on peut adresser à Dieu. On a parlé la dernière fois de la foi, un binôme indispensable pour la prière, etc. Qu'est-ce qu'il y a la foi? Est-ce que c'est important pour notre vie de prière? Je ne vais pas dire plus maintenant. Il aurait encore, j'aurais pu dire encore beaucoup de choses, mais on ne terminerait jamais. Alors, je vais tout de suite passer au quatrième thème qu'on va regarder ensemble. Et comme toujours, maintenant, je vous fais une petite feuille. Comme ça, vous suivez. Il faut simplement lire très, très, très fort pour que ça s'enregistre et s'approche un peu au mot. Alors, cet après-midi, j'aimerais vous parler, il ne faut pas encore regarder trop, c'est la prière et les obstacles. Mais avant que je parle des obstacles, il faut que je parle d'autres choses aussi importantes. Il faut, comme toujours, nous reconcentrer sur celui à qui nous nous adressons. Hein, il faut toujours avoir en tête, quand je prie, avec qui je parle. Hein, il faut toujours avoir ça en tête. Ce n'est ni un statut, ni une image, ni le bon Dieu, ni le Père Noël. C'est à qui je m'adresse. À qui nous avons affaire. Et ce qui détermine mon approche. Alors, parmi beaucoup de versets dans la Bible, je vous ai choisi Deutéronome, chapitre 4, versets 23 et 24. Si quelqu'un veut lire, Alex, j'approche un peu très fort.
Gardez-vous d'oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et de vous fabriquer une idole représentant quoi que ce soit, contrairement aux ordres de l'Éternel, votre Dieu. Car l'Éternel, votre Dieu, est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival.
Merci, Alex. Si on veut quelque chose de quelqu'un, hein, il faut savoir comment je m'y prends pour demander quelque chose. Par exemple, Christina, on est mariés depuis 30 ans, elle sait me prendre. Si elle veut quelque chose, elle sait comment me demander, quoi faire pour que moi je dise oui. Hein? Parce qu'on se connaît. Alors le mendiant qui est devant l'idèle, quand il m'approche, il s'approche vers moi et il veut des sous. Il ne me connaît pas. Alors, il ne sait pas comment s'approcher. Et souvent, il n'a rien. Parce qu'il ne sait pas que je suis comme ça. Je ne donne pas à quelqu'un qui vient que comme ça. Donne-moi des sous. Hein? Je donne volontairement à quelqu'un qui fait quelque chose. Par exemple, s'il fait un peu de musique ou s'il essaie de jongler, voilà. C'est pour moi déjà un petit peu gagné. Hein, il fait quelque chose pour avoir quelque chose. C'est moi, hein, n'importe, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais alors, il ne sait pas comment m'approcher. Alors, souvent, il ne reçoit pas ce qu'il veut. En plus, il y a un chien, je n'aime pas. Alors, mais ça, c'est autre chose. Hein. Alors, si je m'approche de Dieu, qui est un Dieu jaloux, hein, ici dans le texte, c'est marqué qui ne tolère aucun rival. On pourrait bien traduire par parce que c'est un Dieu jaloux. Hein, c'est presque la même idée. Hein. Et j'ai dans ma vie des choses qui sont plus importantes que lui, alors je vais avoir du mal à recevoir ce que je demande. Ce ne veut pas dire que Dieu est capricieux et Dieu ne veut pas me donner. Ça veut simplement dire que Dieu veut que tu le prennes au sérieux. Christina, je pense que c'était la semaine dernière, elle a appris ce verset fantastique aux enfants. Oui, oui, ah, ça c'est Dieu qui parle, hein, en Ésaïe. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et du peuple contre ta vie. Nous avons un Dieu qui est prêt de tout par amour pour nous les hommes. Hein, c'est fou, il est même prêt à consacrer des peuples parce qu'il m'aime. Tellement j'ai de l'amour. Et il a de l'amour pour moi. Il a de l'amour pour moi, mais il ne propose pas une grâce pour marcher. Ce n'est pas un Dieu que je peux utiliser comme ça. Alors, pour ça, je vais vous parler de sept obstacles qui peuvent se dresser entre Dieu et nous, hein, et qui peuvent négativement influencer nos prières. Alors, la question est comment je peux, voilà, finalement, dépasser ces obstacles ou peut-être détruire ces obstacles. Elle a fait caca. Alors, le premier obstacle, c'est l'homme lui-même. Je marque, je, moi, c'est Bibi lui-même, hein, c'est moi, hein, le premier obstacle. C'est vrai que si on parle de la prière, notre envie de prier, c'est souvent nous-mêmes notre plus grand obstacle. Nous voulons prier, nous voulons peut-être même plus prier. Hein, on prend la décision, je veux plus prier par jour, je ne sais rien. Hein, mais il est toujours difficile de trouver le temps ou trouver l'envie pour prier. Et si le moment que nous sommes à genoux et nous avons vraiment, vous êtes assis, vous faites comme vous voulez, vous êtes assis et vous avez décidé, je veux prier maintenant. Maintenant, je prends un temps, je prends un quart d'heure, je veux prier. Il y a toujours 36 choses qui nous passent par la tête. Jamais autant de choses qui nous passent par la tête que là où on veut prier. Quelqu'un a écrit une fois dans un livre sur la prière, il a dit, le diable, il nous laisse faire tout ce que nous voulons. On peut s'engager à 1000 choses dans le royaume de Dieu. On peut organiser des concerts, des cultes, tout ce qu'on veut. Il nous laisse tranquille. Mais dès que des hommes se décident de s'asseoir pour prier, là, il vient pour nous empêcher. Il met tout en œuvre pour mettre des bâtons dans les roues. Combien de réunions de prière j'ai déjà passées, et c'était certainement aussi ma faute, hein, passées où trois quarts du temps, on parle. Ah, on parle peut-être même du sujet, n'importe. Hein. Et peut-être un quart, on prend encore pour prier à la fin. Parler, il nous laisse. Mais prier, c'est vraiment... Alors, comment franchir cet obstacle? Moi, je vous dis, prenez un temps fixe par jour, si possible, toujours au même moment. Hein, vous dites, ici, je prends un quart d'heure, une demi-heure, n'importe comment vous vous sentez, et vous prenez ce temps pour prier. Loin de vos smartphones, loin de toutes les tablettes ou tout l'ordinateur, qui a rien. Peut-être avec moi j'aime bien avec un petit cahier ou une petite feuille avec un stylo à côté, et dès qu'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, je devrais faire, vous le notez, par exemple. Et comme ça, vous savez, voilà, je vais me rappeler plus tard, je vais le faire plus tard, pour vous concentrer sur la prière. Ah, il faut parfois se discipliner un peu pour avancer, pour apprendre, hein, peut-être passer un peu plus de temps que le Notre Père dans la prière. Rien contre le Notre Père, les enfants, ils vont l'apprendre par cœur. Hein, ça, c'est bon, là? Premier obstacle, c'est nous-mêmes. Deuxième obstacle, c'est le péché. Tu veux bien lire? Très fort.
Venez et écoutez tout ce qui craignait Dieu. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma main. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu et il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière et me conserve son amour.
Merci. Il y a un autre verset que j'aime bien dans le livre d'Ésaïe. Hein. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Et après, ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il se détourne loin de vous pour ne plus vous entendre. Ça, c'est Ésaïe 59, versets 1 et 2. Le péché, c'est quoi le péché? Comment? Rater. Explique. Ouais. Et cet objectif, c'est quoi? Faire la volonté de Dieu, et le péché est tout ce qui est à côté. Hein? Voilà. Oui, il y avait des autres. Hein? Pas? Être pas en accord avec sa parole. Ah, quand on travaille. Oui. Faire des mauvaises choses. Oui. Là, c'est déjà peut-être déjà contré. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Voilà, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est tout. Voilà, c'est la rébellion contre Dieu, hein, simplement. Je fais volontairement le contraire de ce que Dieu veut. Je décide d'être mon propre maître. Et c'est une chose que Dieu ne peut pas tolérer. Vous le rappelez, hein? Encore le premier verset qu'on a regardé. Il ne tolère aucun rival. Ah oui, mais quelqu'un aimerait peut-être dire maintenant, oui, mais nous ne sommes jamais sans péché. Ah bon? Et pourquoi pas? Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. De tout le mal que nous avons commis. Il y a une différence entre notre nature, comme la Bible nous dit, notre nature pécheresse, hein, nature de pécheur, et de tolérer des péchés dans notre vie. Ce n'est pas la même chose. Notre nature, nous la gardons toute notre vie, jusqu'à la fin. Il y a toujours cette tendance hein, de faire, oui, d'être notre propre maître. On est comme ça. Hein, on veut faire ce que nous, on aimerait faire. Hein, ça, c'est... Et la tendance des faits... Voilà, ça, je l'ai déjà dit. Hein? Attends, je lis encore. Notre nature, nous la gardons toute notre vie, ça j'ai dit. Hein? Et la tendance de faire quand notre tête nous poursuit jusqu'à notre dernier souffle. Ah, mais... mais d'être pur devant Dieu, c'est chose possible. Pur devant Dieu, c'est chose possible. Ça s'appelle le pardon. Le pardon purifie nous de tous nos péchés. Et si nous voulons franchir cet obstacle du péché pour vivre la puissance de la prière, il nous faut ce pardon. Et pour avoir ce pardon, il faut reconnaître ses torts. Il faut reconnaître, voilà, je ne suis pas parfait. Il faut reconnaître, voilà, il y a des choses dans ma vie que Dieu n'aime pas. Et il faut se débarrasser. Si vous reconnaissez, hein, ces gens qui nous disent, alors il est fidèle et il nous pardonne tout. Peut-être une chose encore, entre parenthèses seulement, hein. Il y a toujours, quand on parle de quelque chose, il y a toujours des extrémistes. Hein? Alors, il y a des extrémistes qui vont peut-être dire, hein, oui, mais Dieu veut vraiment seulement vous écouter quand le dernier bout du péché dans votre vie est débarrassé. Et si peut-être il y a un grand arrière-grand-père qui a vendu une vache pas à un bon prix, il faut trouver, et il faut quand même trouver le pardon pour... Hein? C'est important de mettre sa vie en règle, certes. Mais avant tout, vivons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est là chaque jour. Et si le Seigneur veut que vous demandez pardon, que votre grand-père a vendu une vache trop chère, il va vous le montrer. Mais ça n'a pas de sens maintenant de passer une heure dans la prière pour trouver, ah voilà, où c'est ça. Dieu est assez grand pour nous pardonner. Vivons ce pardon et cette grâce. Et je ferme. Hein, c'est... Troisième obstacle, la manque de foi. Chaque 1, verset 6 à 8. On commence, continue.
Cependant, il la demande avec foi. Sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises.
Merci, Eric. Pour lui, quelqu'un qui doute, pour chaque, est quelqu'un d'instable. Il ne se laisse pas loter et avance pas dans sa vie. L'image que chaque utilise, c'est un peu l'image de Pierre. De Pierre, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui Jésus, non, les disciples sont sur un bateau et Jésus est encore loin. Et à ce bateau, comme, il y a une tempête qui arrive. Alors le bateau, et tout le monde a peur. Et finalement, dans la nuit, c'est Jésus qui passe et il marche sur l'eau. Et Pierre, il voit Jésus marcher sur l'eau et il le reconnaît. Et il demande, est-ce que je... Appelle-moi, je vais aussi marcher sur l'eau comme toi. Et Jésus dit, viens, viens vers moi. Et Jésus, et Pierre sort du bateau, il marche. Et après, voilà, quand il voit les vagues, hein, à gauche, à droite de lui, il commence à avoir peur. Et il s'enfonce. Il appelle Jésus et Jésus le sort. Et qu'est-ce qu'il dit après, Jésus à Pierre? Il dit, ta foi... Eh bien, petite, lui dit-il, pourquoi as-tu douté? C'est ça, hein? C'est ça que Jacques reprend. Pourquoi as-tu douté? pour moi, hein, personnellement, je suis quelqu'un qui réfléchit trop. Ça peut aider souvent dans certaines choses. J'analyse les choses et souvent je prends la bonne décision, hein, parce que je réfléchis bien. Hein. Parce que ça m'évite souvent d'avancer tête baissée vers quelque chose. Mais ça donne aussi souvent une inconstance dans la vie, surtout dans ma tête. Vous avez certains mots aussi déjà. Non, vous ne connaissez peut-être pas. Un simple coup de fil. Oh là là, comment je suis... Alors, il faut que dans ma tête, je réfléchisse exactement ce que je vais dire. Alors, je vais dire ça, et si la personne va dire ça, moi, je vais dire ça. Hein, je prépare exactement de moi. Pour ça, je n'aime pas téléphoner. Hein. Il faut que je sois préparé. Et pour ça, ça dure parfois 3 jours, jusqu'enfin, je prends un... Hein. Je suis ballotté à gauche, à droite, je n'arrive pas. Pour témoigner devant quelqu'un. Ici, c'était maintenant l'occasion de placer un mot. Mais est-ce que c'est vraiment bien? Mais si la personne pose après une question, qu'est-ce que je dis après? Hein? Tu commences à réfléchir, et plus que tu commences à réfléchir, moins tu fais. Et finalement, je n'ai rien dit. Oui, à la maison, je sais, après, ah oui, ici, j'aurais pu dire, waouh, c'est bien. Paloté à gauche, à droite. C'est aussi la même chose pour demander des choses à Dieu dans la prière. Parce que je demande, ah oui Seigneur, là c'est vraiment important, je demande avec foi. Et après je dis, mais si il ne fait rien, alors comment je peux me tourner qu'il... Hein? C'est, même dans la prière, je réfléchis trop. J'ai trop de doutes là-haut. Alors je suis quelqu'un qui est ballotté, toujours à gauche, à droite, c'est comme ça et comme ça. Et j'avance pas. Comment passer cet obstacle, hein? C'est la question. C'est si facile et tellement difficile. Hein, pour Pierre, on pourrait dire il faut fixer les yeux sur Jésus-Christ. Fixer les yeux sur Jésus-Christ et ses possibilités à lui, et pas aux 36 choses qui peuvent me faire peur, qui sèment le doute ou qui essayent de me raisonner. Quand les disciples demandent un jour, augmente-nous la foi. Hein, il y a un moment où il demande. Vous savez, qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Non, vous n'avez pas peur. Les disciples demandent, augmente-nous la foi. Et Jésus dit, on l'a lu la dernière fois, si tu as la foi comme une graine de moutarde, dis à cette montagne et il va se transporter. C'est la même chose. Augmente-nous la foi. C'est nommé. Je l'ai marqué. Hein. Il nous faut une foi qui a un nom. Une foi qui a ce nom de graine de moutarde. Là, je n'étais pas sûr si vous avez vraiment compris ce que je veux dire. C'est important de nommer les choses. Vous savez, heureusement, on a un Dieu qui nous comprend vraiment très, très bien, hein, et qui est très patient avec nous et qui peut transformer nos prières qui sont peut-être nulles en quelque chose de bien. Hein. Il est super. Hein. Mais je veux dire, aussi devant Dieu, c'est bien de nommer les choses. Si vous voulez quelque chose, dites ce que vous voulez. Et dites pas simplement, ah Seigneur, bénis cette personne. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Hein? Essayez d'être aussi devant Dieu dans vos prières concrètes. Voilà, ça, je veux. Je veux ça. C'est ça, la graine de moutarde aussi. Hein? Le nommer. Seigneur, j'ai besoin maintenant de ça. Exactement et spécialement ça. Hein? Je voulais ça encore dire. Hein? Alors, nous passons à notre quatrième obstacle. Je parle trop, je pense. Et peut-être sans surprise, c'est à nouveau un thème que nous avons déjà effleuré la dernière fois. Nous n'avons pas forcément parlé de l'orgueil, mais nous avons parlé de son opposé, l'humilité. Hein, vous vous rappelez les soldats romains? Hein, et son humilité. hein, qui vient vers Jésus et dit, dis un mot. Et mon serviteur est guéri. Pas plus. Hein. Viens pas vers moi. Hein. Viens pas chez moi. Même pas nécessaire. Un seul mot et tout est fait. L'orgueil. 1 Corinthiens 4, verset 7.
L'orgueil. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu fait que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu?
Tout ce que nous avons est nous donné par simple grâce de Dieu. Et si tu perds cette idée de ton champ de vision, Dieu ne peut plus rien pour toi. Les responsables juifs de l'époque de Jésus étaient tellement fiers et tellement orgueilleux parce qu'ils avaient Abraham comme père, parce qu'il faisait partie du peuple choisi par Dieu, qu'ils ont perdu complètement le sens de la réalité. Ils ont pensé tout ce qu'ils ont, ça leur appartient. Et ils ont oublié que tout ce qu'ils ont leur est donné par Dieu. Même Paul était en danger dans 2 Corinthiens chapitre 12. Lui aussi, il savait que l'orgueil peut bousiller toute une vie. Il dit dans ses... Il faut lire une fois à la maison. Hein, qu'est-ce que c'est 2 Corinthiens 12. Il raconte un peu tout ce qu'il a vécu. Tout le mal, hein, il était 4 fois lapidé, il était voilà, tapé, mis en prison et tout ça. Et il dit, tout ça pourrait grandir, ou le prendre comme, je suis le plus grand. Et finalement, il dit, tout ça, c'est rien. Rien par rapport à la grâce de Dieu que j'ai reçue. Et dans ma faiblesse, là, je suis vraiment fort. C'est la grâce de Dieu qui accorde à une église de 1000 personnes. Oui, et c'est la même grâce de Dieu qui accorde à quelqu'un d'autre un groupe de 10. Il n'y a pas un qui a reçu plus de grâce que l'autre. On pourrait penser, lui, il est béni de Dieu. Mais non, il n'a pas plus de grâce que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un dans le monde qui a plus de grâce que vous avez reçu dans votre vie. Il a peut-être une autre responsabilité, il y a des choses, ça c'est possible. Mais tout le monde a les mêmes grâces. Dieu ne donne pas pour que nous puissions nous vanter. Dieu nous donne pour que son nom soit glorifié. Et pour dépasser l'orgueil, cet obstacle, hein, il faut beaucoup d'honnêteté et d'humilité. La Bible nous dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Peut-être le Seigneur ne peut pas donner ce que tu demandes parce qu'il a trop peur que tu l'utilises pour toi-même. Là, nous restons un peu dans la même idée pour le cinquième obstacle. Si vous êtes encore avec moi, cinquième obstacle, mauvaise motivation. Est-ce que je peux te demander de lire chaque 4 versets 3? Merci beaucoup. J'ai bugué. Hein. Dans mes préparations, j'ai bugué. Hein, quand j'étais à ce cinquième obstacle. J'aurais aimé d'avoir Jacques à mes côtés pour m'expliquer un peu plus qu'est-ce que tu voulais dire là. Explique-moi. Est-ce forcément mal de se faire plaisir? J'aimerais te demander déjà, qu'est-ce que forcément mal de quelque chose, d'avoir un plaisir pour moi. Est-ce que mes plaisirs n'ont alors forcément rien à voir avec Dieu? Est-ce que moi, ce que moi j'aime, est-ce que ça n'a rien à voir dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu dis? J'aurais aimé te demander. J'aurais aimé que Jacques me donne un exemple d'une telle prière qu'il dit là. Hein. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et finalement, je me suis simplement demandé, mais quels sont les bons motifs? Quels sont les bons motifs? C'est Dieu. Glorifier Dieu. Que mes prières et ce que je demande agrandissent la gloire de Dieu dans le monde, dans la vie des autres et aussi dans ma propre vie. Un deuxième, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Que mes prières et ce que je demande aident que l'œuvre de Dieu avance dans le monde et dans nos vies. Alors, toutes les prières qui visent un de ces deux grands motifs vont être favorablement accueillies par le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ce que je demande glorifie Dieu? Est-ce que ça aide à avancer le royaume de Dieu? Alors Dieu est prêt à répondre favorablement. Et quels sont les mauvais motifs? Les propres intérêts. Que mes prières et ce que je demande agrandissent seulement mon propre confort. Alors ça pose la question, hein, c'est... Et on a parlé il n'y a pas longtemps. Christina, elle a le tendance toujours quand elle va au supermarché et elle avance avec la voiture. Alors elle demande, elle prie toujours d'avoir une place de parking. Oh, mieux c'est deux, parce que comme ça elle peut bien carrer sa voiture. Alors cette prière-là, est-ce que ça avance le royaume de Dieu? Mais est-ce que c'est le propre intérêt? Mais je pense que je vais parler plus de mes désirs superflus. Que mes prières et ce que je demande aient seulement mon propre manque de satisfaction. Vous vous rappelez un jour, le peuple d'Israël dans le désert. Ça, c'est, pardon pour ceux qui connaissent la Bible pas encore par cœur, les pasteurs, ils ont toujours cette tendance, c'est bête hein, de dire « Ah, vous connaissez cette histoire ». Non, vous ne connaissez peut-être pas. Hein, c'est l'histoire où le peuple d'Israël est dans le désert et depuis des années, et qu'est-ce qu'ils mangent chaque jour, trois fois par jour? De la manne. Toujours la même chose. La manne, c'est une sorte de pain qui, avec du miel, qui a du goût du miel et tout ça. Alors le peuple d'Israël, à un moment, il a le marre. Hein, toujours, mange toujours la même chose. Il veut la viande, exactement. Alors il demande Moïse qu'il intercède auprès de Dieu pour la viande. Et Dieu a marre. Il a marre. Je donne tout le temps. Je donne chaque jour. Et jamais ils sont satisfaits. Jamais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne la viande jusque là-haut. Hein? Il laisse arriver des cailles ou quelque chose comme ça, hein, des sortes d'oiseaux, 2 mètres de haut. Et ils mangent jusqu'ils sont malades. Dieu a de l'humour. Hein? Hein? Et parfois, peut-être, il nous donne aussi, seulement parce qu'il a marre. Alors, goûte ça, et on est malade après. Hein. Mais fais très attention de ne pas mélanger les bons motifs avec les propres intérêts. Si vous priez pour que l'église de Pompéi s'agrandisse d'une façon fulgurante, j'espère, hein, seulement pour pouvoir montrer que notre beau projet, oh, on est tellement bien. C'était notre projet. Regardez comment ça réussit. Il faut voir chez nous comment on travaille et tout ça. Si c'est pour ça, ne mélangez pas les choses. Je vous garantis, si c'est vraiment ça notre motif, nous allons rester encore un bon bout de temps, un poignet de joyeux combattants. On veut dépasser cet obstacle. On apprenons par cœur cette phrase. que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné en plus. Cherchez d'abord. Vous l'avez dans la tête? Cherchez d'abord. Eric, tu l'as? Alors dis-moi. Hein, le verset? Cherchez. Ah, voilà. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. C'est ça. Sixième obstacle, des conflits. Je vais maintenant accélérer. Des conflits non résolus. Matthieu 5, 23 et 24.
Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande.
Ah. Oui, je sais, le texte ne parle pas directement de la prière, mais le principe est le même. Si tu veux aller devant Dieu, dans le texte pour une offrande, mais aussi pour la prière, essaye d'être en règle dans ta vie. Je pense que Dieu peut plus facilement répondre favorablement à tes prières s'il voit que tu fais tout ce qui est dans ton possible de vivre en paix avec les autres. Même si ce n'est pas toi le fautif. Vous avez entendu dans le verset, hein? Si ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui as quelque chose. Mais si tu vois ton frère, hein, ça parle de l'Église, hein? Ça ne parle pas de... Hein, s'il a quelque chose contre toi, va d'abord vers lui. Parfois, l'autre personne ne veut pas la paix. Alors là, ce n'est plus ton problème. Paul dit en Romains 12, 18, « Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » La solution pour franchir ce sixième obstacle nous donne Jésus dans le texte que je vous ai marqué. La réconciliation immédiate. Je pourrais dire, normalement, tu peux à la rigueur arrêter ta prière tout de suite. Stop. Si tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle, il ne faut même pas continuer à prier. Tu peux arrêter et d'abord te mettre en règle avec l'autre personne. Faire la paix. Alors, et le septième obstacle est assez délicat.
Voilà,
n'oubliez pas que ce texte était écrit. Non, mais... N'oubliez pas, non. N'oubliez pas que ce texte était écrit il y a 2000 ans. Et que certaines choses ont évolué depuis. Je crois que la parole de Dieu est éternelle. Mais derrière certains mots, on comprend aujourd'hui plus la même chose qu'il y a 2000 ans. C'est sûr. Hein? Mais ce n'est pas d'excuse. Le texte est là. Et tout à la fin, vous voyez pourquoi le texte est là. Hein? Ce n'est pas pour mettre le cisanie ou quelque chose comme ça. Hein? C'était vraiment pour un but précis. Hein? Vous comprenez. Voilà. S'il te plaît.
Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre vous ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu. Et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
Voilà. Vous avez compris que c'est pour cette phrase-là. Hein? Si dans un couple, il n'y a plus de respect, et c'est de ça qu'il parle, hein? Pierre ici, hein? Il y a comme un obstacle qui se dresse entre Dieu et vous. J'insiste sur ce mot-là, hein? Le respect. Respecter l'autre en tant que femme, respecter l'autre en tant qu'homme, c'est le vrai défi dans sa vie de couple. Parce qu'il y a un lien entre votre vie à deux ou en famille et la volonté de Dieu d'entendre vos prières. Il y a un lien entre la paix que vous avez dans votre maison et l'envie de Dieu de vous écouter. Si je vous parle de ces obstacles qui se dressent devant vous et entre Dieu et vous alors, c'est parce que la Bible nous en parle, certes. Mais aussi parce que je veux mettre tous les chances de votre côté. C'est ça. J'aimerais ouvrir une porte devant vous. Une porte qui mène à toutes les richesses de notre Dieu absolument généreux. Si je vous parle de ces obstacles et peut-être la possibilité de les franchir, ce n'est pas pour parler des obstacles, hein, c'est pour vous parler de cette porte qui est ouverte derrière tous ces obstacles. Une porte qui amène vers quelque chose de grandiose, vers un Dieu qui aime donner. Un Dieu qui est généreux. Il y a des obstacles, c'est vrai. Et là, c'est la conclusion. Il y a des obstacles, c'est vrai. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Voilà. Si c'est vous-même, alors vous pouvez le franchir avec un peu de discipline. Si c'est le péché, il vous faut le pardon. Si c'est le manque de foi, c'est le regard vers Jésus. Si c'est l'orgueil, il vous faut l'humilité comme notre soldat romain. Si c'est la mauvaise motivation, apprenez Matthieu 6, 33 par cœur. Je ne demande pas maintenant. Hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné en plus. Hein, en plus. Si ce sont des conflits, arrêtez de prier. Et faites la paix les uns avec les autres. Ne soyez pas hypocrites. Hein. Ne disez pas, oh, moi je prie une demi-heure. Et à côté, vous n'êtes pas en règle avec votre frère. Vous ne pouvez pas blairer votre sœur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si vous avez un problème de couple, trouvez le respect mutuel. Agissez ainsi. Et je suis là pour terminer. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que vous trouviez des portes ouvertes pour la grâce de Dieu.